Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 182. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Bonjour Pauline, bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle.
Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui, d'autant que, ben, en fait je ne le savais pas, mais on a bossé ensemble il y a quelques années, il y a presque une dizaine d'années maintenant je pense, ouais. À peu près. On s'est croisés chez Ogilvy, qui est une très très grosse agence de pub pour laquelle on travaillait toutes les deux à un moment donné. Donc c'est très chouette de te retrouver ici au micro du podcast du marketing. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je maîtrise assez mal, je dois te dire, qui est pourtant très à la mode, mais que je ne travaille pas ou très très peu. Donc j'avais envie d'en discuter avec toi pour que tu puisses nous en dire plus, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est le sujet de la gamification. Je ne sais jamais comment le dire, si je dis gamification ou gamification à l'anglaise. Mais toujours est-il qu'on va parler de ça, donc de comment apporter du jeu, du loisir, du sympa dans nos campagnes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Pauline, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, ce que tu fais et qui tu es ?
Ben oui, bien sûr, avec plaisir. Alors ben déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Pauline Consonetti, j'ai 37 ans. Je vis à Nantes et je bosse pour une compagnie qui s'appelle Conduce en tant que directrice marketing France. Je m'occupe d'accompagner, on s'occupe d'accompagner les acteurs du loisir et de la culture dans l'amélioration de l'expérience visiteur. Donc l'idée, c'est de remettre au centre de tout sujet l'expérience visiteur.
Trop bien. Donc, ouais. Ça veut dire travailler avec, j'imagine, des théâtres, des boîtes de concert, des parcs à thème, des choses comme ça, et les aider à mieux comprendre leurs visiteurs et à aider le parcours de leurs visiteurs, c'est ça ?
Ouais, c'est effectivement parc animalier, parc aquatique, parc de loisirs, musée, château. Donc vraiment, ça englobe tout ce qui est autour du loisir et du tourisme, hein, si tu veux, dans sa grande généralité. Et effectivement, on a la partie où on améliore l'expérience utilisateur et visiteur et on essaie de sensibiliser cette industrie qui est un petit peu en retard sur les questions digitales pour faire de l'expérience digitale quelque chose d'aussi chouette que l'expérience qu'ils ont sur place lorsqu'ils reçoivent leurs visiteurs dans le parc.
Génial, trop trop intéressant. J'adore cette idée, moi, de faire rattraper un marché qui a pris du retard sur un élément. Je trouve que c'est toujours un vrai challenge super intéressant. Puis alors du coup, comme tu es dans l'univers du loisir, de toutes ces choses-là, cette fameuse tendance dont on entend souvent parler, j'en ai parlé, mais déjà il y a quelques années avec Pinterest, tu sais, tous les ans, t'as Pinterest qui sort le Pinterest Predict. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Il date un petit peu, mais on parlait déjà à l'époque des grandes tendances marketing et notamment de la tendance de la gamification, encore une fois, je sais pas comment on dit. Évidemment, comme toi, t'es dans l'univers du loisir, ce côté gamification apporté du jeu, du léger, évidemment, ça fait partie de l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette tendance de la gamification ?
Oui, alors après, il y a, on va dire, la définition qu'on peut trouver un peu partout, qui est grosso modo l'état de rendre, on va dire, quelque chose, une action ludique dans un univers qui à la base ne l'était pas. Donc utiliser les mécaniques de jeu existantes et de l'appliquer dans absolument tous les domaines, y compris celui de l'industrie du loisir dans lequel je travaille. Le tout, en fait, de la gamification, c'est de jouer sur ses sensibilités et une dimension affective, en fait, pour créer de l'émotion. Et évidemment, avec trois objectifs, on va dire, qui sont propres au marketing de façon générale, qui est engager, fidéliser et le nerf de la guerre, collecter des datas.
Ah oui, il y a déjà collecté des datas dans cette gamification. C'est pas juste pour faire marrer les gens, en fait, qu'on va aller travailler ça.
Non, on fait, c'est effectivement un des objectifs aussi, c'est les faire marrer, enfin les engager et en les faisant rire, en leur créant, voilà, en leur faisant créer quand même une expérience. Mais effectivement, oui, il y a quand même une idée de collecter des datas, de collecter un certain nombre d'informations sur leur comportement pour après derrière pousser et inciter évidemment à la conversion.
Vachement intéressant. Du coup, j'essaye de visualiser un peu à quoi ça peut ressembler tout ça, à quoi ça peut ressembler une campagne de gamification. Tu me dis si je suis dans le vrai. Est-ce que j'arrive sur un site et tu sais, parfois tu vois cette espèce de petite roue de la fortune, là, tourner la roue pour gagner, peut-être tenter votre chance, gagner un cadeau. Est-ce que c'est ça la gamification?
Ça peut être ça, la gamification, tout à fait. Ça, c'est vraiment la roulette russe là qu'on a sur les, notamment sur les sites qui sont hébergés avec Shopify. C'est clairement ça. Mais après, il y a plein d'autres outils et plein d'autres formes de gamification qui existent. On passe aussi bien dans du physique que du digital, mais tu peux avoir aussi bien la VR, les objets connectés, la tarification dynamique. Ça, c'est ce qu'on fait chez Conduce, c'est la proposition qu'on fait auprès de nos partenaires, avec des petites jauges qui permettent de choisir son prix et donc de définir. On laisse le visiteur agir et être acteur de l'entrée du prix de l'entrée de son parc, de sa visite. Et puis après, il y en a plein d'autres aussi, hein. Tu vas voir les tests, les quiz, etc. Enfin, il y a plein de choses qui permettent en fait de créer la transversalité entre non seulement donc on va dire l'univers et la partie physique print d'une approche marketing et la partie digitale. Et puis après, tu peux trouver de façon très simple, c'est les programmes de fidélité. Ça, c'est clairement le début du début de la gamification où dans les années 80 et 90, tu avais les compagnies aériennes qui te proposaient, en échange de points cumulés au gré des voyages, te proposaient ensuite de t'offrir un voyage gratuit. Donc là, il y avait forcément de la fidélisation, de l'engagement, et on avait ce système d'accumulation, de récompenses, et on retrouve ici tous les fondamentaux, si tu veux, du jeu et de la collaboration.
Ouais, c'est ça. En fait, la gamification, c'est pas du tout une nouvelle tendance. C'est quelque chose qui a toujours existé. Effectivement, quand tu parles des programmes de fidélité, c'est un peu ça. C'est plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas avoir de points pour gagner un grille-pain, un machin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce côté un petit peu, je sors de mon lien purement commercial, client-marque et échange d'argent versus produit, pour aller vers quelque chose qui va m'apporter quelque chose en plus, qui sort un petit peu du domaine finalement.
Ah ben oui, il faut apporter de la valeur à tout ça. C'est vrai que c'est pas qu'une histoire de conversion, même si effectivement, in fine, c'est ça l'objectif. Mais il y a vraiment créé une interaction entre ton audience, ton internaute, ton utilisateur, ton joueur, du coup, et ta marque. C'est sûr qu'il faut créer cette interaction-là, et ça peut aussi passer par le jeu. Et c'est vrai que nous, chez Conviews, en bossant pour l'industrie du loisir, ça fait complètement sens de créer ce genre d'interaction-là, aussi bien dans nos prises de parole et dans notre travail d'image de marque, mais aussi bien dans la proposition, dans notre offre qu'on fait à nos prospects. C'est vraiment mettre du fun dans une action qui à la base n'est pas fun, c'est-à-dire acheter un billet d'entrée ou acheter une paire de choses, ça peut être sympa quand même. Mais bon. Si tu veux, voilà, c'est vraiment trouver la corde qui permet de retrouver un peu l'âme d'enfant, en fait, si tu veux. Et dans l'industrie du loisir, on trouvait que ça faisait sens.
Ah bah c'est sûr que quand tu es dans l'industrie du loisir, que tu parles d'émotions d'âme d'enfant, c'est intéressant. Mais cela dit, ça marche pour à peu près tout, parce que dès lors que tu viens ajouter de l'émotion, nécessairement tu viens accrocher l'intérêt des personnes, donc ça fonctionne. Que j'essaye de comprendre, parce que je t'avoue que effectivement j'ai cette vision, et je pense comme beaucoup de gens, de cette roue là qui tourne, tentez votre chance, etc. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quoi ça peut ressembler des campagnes de gamification, et notamment tu me disais par exemple de faire le pont entre des communications digitales et des communications physiques. Comment est-ce qu'on va faire ça?
Alors, on va faire ça de plein de façons différentes. Donc, ou tu le fais uniquement en digital, et donc ça peut être ce système de roue, mais bon, ça c'est bon, on le sait. Tu peux avoir la VR avec les outils connectés, donc notamment les applications mobiles, qui est vraiment un des canaux les plus privilégiés pour la gamification. Justement, tu vas avoir tout ce qui est musée ou parc qui vont créer des expériences pour éduquer, sensibiliser à la cause animale, pour ce genre de choses-là, où vraiment tu crées l'interaction, où tu engages la personne à agir. Et donc, du coup, il y a tout un parcours autour de ça, les chasses au trésor, à l'Opéra de Paris, par exemple. Ça aussi, c'est vraiment des systèmes de gamification où finalement tu utilises un objet connecté, qui est par exemple l'application mobile, au service d'une expérience physique sur site. Et c'est ça qui est assez magique, parce que finalement le digital, tu as personne en face de toi, tu es devant ton ordinateur, c'est quand même quelque chose d'assez froid. Et effectivement, je trouve que la gamification, au-delà du fun, ça rend la relation que tu peux avoir avec ton visiteur, ton internaute, un peu plus chaleureuse aussi, tu vois, ou un peu plus de légèreté aussi.
Et puis, ça fait passer cette relation sur de l'expérientiel, et on sait que l'expérientiel, s'il est bien fait, bien sûr, ça va laisser une empreinte mémorielle qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Dès lors que tu as vécu, je reprends ton exemple de l'Opéra de Paris, que tu as fait une chasse au trésor à l'Opéra de Paris. Un, tu te souviens de l'Opéra de Paris. Deux, tu te souviens de l'événement d'y être allé. Trois, tu te souviens très probablement des petits recoins, des détails et des choses que tu n'aurais probablement pas remarqué si c'était juste passé comme ça, parce que t'es rentré dans une véritable expérience. Donc, ça permet d'ancrer finalement l'expérience, l'événement, de fait le produit et la marque, dans la mémoire de l'utilisateur, c'est ça ?
Exactement, et puis du bon côté de la mémoire, c'est-à-dire une mémoire quand même très positive où effectivement on se souvient de ce qu'on y a fait, et puis oui, c'est ça, ça prolonge en fait l'expérience après la visite, après l'achat. En fait, on se souvient de ce qu'on y a fait, et ça touche aux émotions et à quelque chose de très cognitif en fait. Et c'est je pense un petit peu la clé désormais de toute expérience client. On peut plus se passer de ça, en fait. On peut plus juste vendre quelque chose et puis salut, bonne soirée, en fait. Il faut qu'on perdure, il faut qu'on prolonge la relation. Sans ça, le client va passer à une autre marque. Hein. Je sais qu'il y avait un autre épisode, je sais plus quel invité vous aviez parlé du fait que la loyauté des clients était quand même très compliquée à garder. Et effectivement, ça. Forcément, l'expérience et marquer les esprits est un gage de fidélisation.
Ouais, c'était avec Antoine Susini, qui est le directeur marketing de Heineken, qu'on parlait de fidélité, où il me disait, pardon, mais à peu près l'inverse, il me disait, de toute façon, les clients, mais c'est très vrai sur des FMCG, tu vois, des marques de grande consommation, où il disait, ça sert à rien d'essayer d'aller les rendre loyaux, parce que de toute façon, ils ne sont pas loyaux par définition. Mais je te rejoins complètement sur le fait que ça, c'est vrai sur certains produits, beaucoup moins sur d'autres, et que c'est intéressant, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'Antoine disait. Antoine ne disait pas arrêter d'essayer de fidéliser, parce que effectivement, on aurait un petit peu de mal. Mais bien sûr que d'aller construire non pas juste une relation commerciale, mais une expérience, une vraie expérience partagée avec son client. Nécessairement, ça met la relation à un autre niveau. Et encore une fois, pardon, je fais en ce moment très souvent le lien avec l'IA, et je sais que bon, on est un peu saoulé par les intelligences artificielles en ce moment, on n'entend parler que de ça, etc. Il n'empêche que on ne peut pas passer totalement à côté maintenant. Il faut un petit peu ouvrir les yeux, et quand bien même ça peut faire peur, parce que j'entends bien que ça puisse faire peur à plein de gens. Moi, la première, hein, pour tout dire, n'empêche que on peut pas juste fermer les yeux, faire l'autruche et attendre que ça se passe. Il va y avoir quand même pas mal de bouleversements, très probablement, sans savoir exactement à quoi va ressembler l'avenir. Il n'empêche que tout ça nous arrive dans la figure, et très probablement, on peut imaginer que on va être en recherche de plus d'humains, de plus de vrais, de plus de réels, Non pas parce que l'IA fera des mauvaises choses, hein. L'IA, à mon avis, va grandement nous aider sur plein de choses, mais de fait, à un moment donné, on va en avoir un petit peu marre d'avoir des relations artificielles ou des informations qui nous viennent de quelque chose qui se dit d'intelligence, mais qui reste artificielle, voilà, enfin, qui fait pas partie de nous, et on va aller rechercher cette expérience, cette relation humaine, ce ressenti, ce vécu, voilà, toutes ces choses-là qui vont nous raccrocher à notre humanité, à mon sens. Encore une fois, sans vouloir regarder l'avenir et faire des plans sur la comète, je suis à peu près persuadée que tout ce qui va être accroché à l'humain, nous raccrocher à notre humanité, va être de plus en plus important et prendre de plus en plus de force. D'où c'est effectivement ces process de gamification, d'expérience, d'expérientiel vont être de plus en plus présents, ou en tout cas vont prendre de plus en plus de poids et de force dans nos stratégies.
Oui. Et si je peux me permettre,
vas-y.
Je pense qu'effectivement, au-delà d'effectivement humaniser de plus en plus la relation, parce qu'effectivement, on va être en carence d'humains, il y a aussi prendre part, je pense. Au-delà du mot engagé, l'engagement, etc., les metrics marketing qu'on connaît, ok, mais il y a aussi prendre part, agir, c'est-à-dire prendre un petit peu plus le contrôle sur ce qu'on nous propose et décider de plus en plus, parce qu'en plus l'offre elle se dilue, il y en a de plus en plus, etc. Effectivement, au-delà d'engager le visiteur, etc., avec plein de moyens comme on vient de parler, il y a aussi, je pense, que le visiteur va vouloir prendre part et agir pour être plus acteur, on va dire, de ses choix et de ce qu'on lui propose. Et je pense la gamification, mais il y a d'autres aussi sujets qui peuvent être des clés, peut faire partie de ce changement de code, on va dire. Et ouais, ça, je trouve ça très chouette.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment des choses à aller creuser de ce côté-là. Quand bien même, tu vois, on en parlait un peu en off tout à l'heure et j'ai envie d'aborder ce sujet-là maintenant du coup. Il y a quand même un truc, moi, dont je ne suis pas sûre avec cette histoire de gamification, de rapporter du jeu, du ludique, etc. C'est une tendance qui nous vient des États-Unis. Aux États-Unis, c'est une tendance qui est assez forte, hein, et qui, à mon sens, fonctionne très bien avec la culture américaine. Les Américains, ils sont un peu dans la compète, quand même. Je grossis le trait, mais quand même, comparé à nous, ils sont dans la compète quand, depuis leur plus tendre enfance, ils font des compétitions, il faut gagner un trophée, un machin, un truc, un lala, être le capitaine de l'équipe de foot et compagnie. Nous, en France, on est quand même beaucoup, beaucoup moins dans ce système-là. Ce qui fait que quand aux États-Unis, tu as plein de principes de gamification où on te dit « Ah, bravo, tu as gagné un badge, machin truc, etc. », nous, en France, je ne suis pas sûre qu'on soit si à l'aise finalement avec ce processus-là. Comment toi, tu vois les choses ?
Alors oui, c'est ce qu'on se disait, effectivement, je suis totalement d'accord. Les pays anglophones, notamment les États-Unis, mais Amérique du Nord et même côté Angleterre, etc., ils sont quand même beaucoup plus friands de ce genre de d'approche. Mais je sais effectivement qu'en France et en Europe, c'est une question d'adaptation. En fait, l'approche peut être différente, elle peut être tout aussi ludique, mais elle peut être plus subtile, parce que de toute façon, on a une approche de façon générale qui est un petit peu plus subtile, moins directe. On a besoin, voilà, de courber un petit peu, d'arrondir les angles. Et effectivement, la gamification, elle a tout son rôle à jouer, ouais, a tout son sens en France, sur le marché français, parce que de toute façon, on est face quand même à une situation sur un marché qui est quand même hyper tendu, avec une inflation, etc., et que je pense que n'importe quel Français, s'il peut avoir un good deal, une promo ou quelque chose qui lui permet, qui lui donne l'impression de gagner, en tout cas qui lui fait gagner quelque chose, il dira pas non, peu importe la forme. Et puis après, effectivement, nous, dans la notion de culture, dans la notion de, voilà, peut-être amener les choses de façon, comme je disais, plus subtile, en essayant d'éduquer, en essayant d'ajouter de la valeur, en lui faisant apprendre quelque chose. Ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus amené vers ça, vers l'éducation, la sensibilisation, plutôt que, voilà, moins 50% braderie, machin. Ça, je pense qu'effectivement, c'est pas l'idée. De toute façon, la gamification, c'est pas ça non plus, hein. C'est plus subtil que ça.
Je suis d'accord. Ça t'amène les choses de façon un peu détournée, mais au lieu de sortir les cotillons, les fanfares et les machins, on peut le faire, ce que tu disais, de façon un peu plus douce peut-être pour les Français, ou en tout cas adapter un peu les choses, peut-être ne pas prendre le modèle américain directement et le plugger sur une campagne française, mais adapter les choses. Et cela dit, j'entends ce que tu dis sur le marché se contraignant, l'inflation galopante, machin, etc. On peut s'attendre à ce que à peu près toutes les offres qui vont faciliter la vie, simplifier les choses, aider et rendre un peu plus heureux, parce qu'on va quand même pas se mentir, on n'est pas dans une période très funky en ce moment. De fait, ça va fonctionner, en tout cas pour une grande partie des gens, des utilisateurs. Ça va apporter ce petit plus d'émotion. Ce que tu me disais, c'était dès lors qu'on apporte de l'émotion, ça va fonctionner. C'est d'aller chercher l'émotion qui est importante finalement dans cette histoire de gamification, plus que le jeu en lui-même. In fine, c'est l'émotion qu'on vient chercher, c'est ça, hein.
Ouais, c'est l'émotion. Il faut créer une histoire, il faut créer un sens. C'est sûr. C'est sûr que, alors, on peut pas raconter toutes les histoires, etc. Il faut quand même que l'expérience, elle soit courte. En tout cas, en digital, il faut quand même qu'elle soit courte. Ça dépend encore des objectifs et de la situation. Mais si tu veux, il faut que ça soit court, il faut que ça soit quand même impactant. Mais il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait du sens. Et effectivement, il faut jouer sur l'émotion. Il faut que, encore une fois, que l'utilisateur, le joueur ait le sentiment d'y gagner avec une notion de collaboration ou de compétition aussi, mais une compétition légère. On n'est pas là pour s'entretuer non plus. À coup de promo, c'est pas l'idée, mais l'idée c'est vraiment voilà de les faire s'engager et reprendre le contrôle un petit peu de ce qu'on peut leur offrir avec de l'émotion et avec le fil rouge aussi de créer de la curiosité, de créer un petit peu de mystère, etc. Voilà, c'est effectivement un peu innover, rendre un peu les choses un peu plus fun parce que comme tu le dis, c'est pas tout rose dehors et qu'effectivement ajouter un petit peu de plaisir et un petit peu de choses un peu légères dans les actes d'achat ou dans n'importe quelle proposition d'expérience, je pense que c'est largement bienvenu.
Ça marche. Alors tu nous as dit, hein, il y a trois gros piliers, il y a fidéliser, il y a engager. Fidéliser, on l'a dit, hein, la gamification finalement elle est là depuis toujours avec des programmes de fidélisation, c'était les pionniers à utiliser la gamification. Engager, on vient d'en parler avec l'expérientiel, aller plus loin, etc. Tu m'as parlé de collecter des données aussi, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que ça fait toujours peur aux gens quand on parle de collecter des données.
Bouh. Alors les données, alors ça c'est donc nous on disait que, enfin moi je disais que j'utilisais la gamification au service de nos partenaires, donc de nos prospects avec une offre de tarification dynamique, et puis de l'autre côté Conviews on l'utilise aussi dans nos prises de parole et dans notre travail d'image, de communication, parce que pareil dans l'industrie du loisir on a envie de faire perdurer justement et de prolonger cette idée de fun et d'expérience et d'émotion, et donc du coup bah, ça fait tout sens pour Conviews qui évolue dans cette industrie de continuer à utiliser ces codes-là. Et notamment, on va avoir les espèces de quiz aussi qui permettent de collecter des données, puisque l'utilisateur à qui on va s'adresser, il va répondre, il va donner ses réponses qui sont plus ou moins personnelles selon le sujet du quiz ou du test. Mais ces données-là, elles sont évidemment collectées quelque part et elles sont hyper précieuses parce que nous, c'est évidemment une approche purement marketing et ciblée où on s'adresse à des personnes dont on a envie de connaître beaucoup plus. Et à travers cet outil de gamification, on récolte ces données-là et ça nous permet de les approcher, de s'adresser à eux de façon beaucoup plus précise. Donc oui, le troisième objectif de la gamification, c'est de collecter les datas.
Et c'est de collecter les datas dans un objectif de mieux connaître, de mieux comprendre ses utilisateurs finalement.
Oui, c'est de servir complètement la proposition. En offrant évidemment, en les connaissant mieux, bah, comme on le sait, hein, de toute façon, on va pouvoir leur proposer la bonne offre au bon moment et au bon endroit. Enfin, ça, c'est la base du marketing. Et sans les datas, à part faire du porte-à-porte et passer 3 heures avec eux chaque jour pour essayer de les connaître, je pense que automatiser la collecte de data, je pense que c'est quand même désormais incontournable pour bien s'adresser aux bonnes personnes et être le plus impactant et le plus performant aussi, hein, évidemment, il y a cette notion de performance.
Ouais, non, mais c'est sûr que, tu vois, quand on dit data, moi c'est marrant, hein, parce que quand on dit data, on a tout de suite, en tout cas moi, je ne sais pas si je dis on, comme si tout le monde fonctionnait comme moi, mais la data, il y a un côté chiffre, qui parfois peut faire peur ou tu vois peut mettre à distance. C'est pas que ça fait peur, c'est que ça met à distance. D'un côté, c'est on se dit hop hop hop, c'est plein de chiffres et de machins, ça va être une montagne de données, je sais pas à quoi ça ressemble. Et de l'autre côté, il y a ce spectre de tu sais des GAFAM, c'est méchant GAFAM, je viens des GAFAM donc je me permets de lire. C'est méchant GAFAM qui vont utiliser nos données et puis régir nos vies, etc. Donc c'est ce mot data, il est maintenant empreint de trucs très très négatifs. Là où il faut se, à mon avis, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, il faut se réconcilier avec les data parce que les data, lorsqu'elles sont correctement utilisées, ça n'est pas autre chose qu'un outil qui nous permet de mieux connaître nos consommateurs. Moi qui suis une aficionados du persona et qui, je le dis, je le répète et je ne cesserai de le répéter, le job du marketeur, c'est de connaître ses clients pour pouvoir leur proposer eh ben, le meilleur produit, la meilleure offre, ce qui leur convient, ce dont ils ont besoin, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'utiliser ces datas pour finalement pouvoir mieux travailler et proposer le meilleur produit, le meilleur service à nos clients, c'est ça hein?
Ah ben oui, complètement. De toute façon, oui, c'est certain que la data, ça peut être un gros mot, mais déjà, il va falloir vivre avec parce que c'est exact, c'est quand même le nerf de tout marketeur, ça c'est certain. Et puis c'est surtout que oui, connaître son audience, connaître sa cible, ça veut pas dire le harceler ou l'approcher de façon péjorative. C'est l'approcher tout court en fait et l'approcher de la bonne manière en fait. Donc enfin, faut se mettre à leur place. Enfin, on est aussi bien des marketeurs que des cibles aussi. Et quand nous, on s'adresse à nous de la bonne manière. Au bon moment, peut-être pas entre 18h et 20h quand on est maman, mais peut-être un peu plus tard, enfin bref, vraiment de façon concrète, bah oui, forcément, le message, il vient beaucoup plus vite, il se transforme beaucoup plus, il est beaucoup plus convaincant et plus impactant. Donc en fait, il faut lever effectivement ce gros brouillard autour de la data qui fait peur et juste accueillir la data comme elle doit l'être, c'est-à-dire un vrai levier de croissance, mais pas que, un vrai levier de connaissance en fait, surtout.
Eh ben écoute, génial, j'adore cette idée. Je vais essayer de résumer très rapidement ce que tu nous as dit. Donc la gamification, finalement, c'est cette tendance qui prend de plus en plus de place et qu'on connaît finalement depuis toujours, hein, puisque tu le disais, les programmes de fidélité, même dans les... Voilà, ça a commencé dans les années 70, je pense, avec les petits points pour gagner ton grille-pain à la fin. Eh bien, c'était déjà de la gamification parce que l'idée, c'est d'aller sortir dans ce rapport purement commercial qu'on va avoir entre une marque et un client, et d'aller ajouter, tu le disais, de la valeur. Ça ne fonctionne que si on vient y ajouter de la valeur. Il y a trois utilisations principales de la gamification. On a le fait de fidéliser, je viens de le dire, on a le fait d'engager et on a le fait de collecter des datas. Fidéliser, je pense que c'est clair pour tout le monde. Engager, ce que tu nous dis, c'est que ça va nous permettre d'aller sur un autre terrain qui est le terrain de l'expérientiel, parce que l'expérientiel va tout simplement permettre à la personne, à l'utilisateur, de mémoriser son lien avec la marque de façon totalement différente et d'apporter un relationnel à la marque qui est totalement déporté et qui ne le place plus, encore une fois, dans ce pur lien commercial. Finalement, cette gamification, c'est déplacer le lien commercial vers quelque chose d'autre. Donc, On va fidéliser, on va engager, on va aussi collecter de la data parce que bien sûr, lorsque la personne va jouer, ça veut dire eh bien faire des choses, agir, engager, interagir, proposer des informations. Tout ça, ce sont des datas. Les datas, non, ça n'est pas que des chiffres dans un tableau Excel. C'est de l'information sur nos consommateurs. Et finalement, c'est un excellent moyen de mieux comprendre, de mieux connaître nos utilisateurs pour pouvoir derrière leur proposer eh bien, le bon produit, la bonne offre, ce dont ils ont besoin. Donc finalement, derrière ce terme de gamification qui paraît un peu comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance à regarder ça comme, ouais, bon, bah, c'est un peu une mode pour faire comme les Américains. On va tourner la petite roue de la fortune et on est bien content. Non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est changer la relation qu'a la marque à son client et puis faire en sorte que cette relation soit la meilleure possible puisque bah, finalement, on va pouvoir segmenter de mieux en mieux et comprendre de mieux en mieux nos consommateurs. Est-ce que ça te va comme résumé?
C'est plutôt très bien.
Bon, ben super, merci infiniment Pauline, parce que c'était un sujet vachement intéressant. Je t'avoue que je suis assez... moi, je prépare très peu, je le dis pour les gens qui écoutent l'épisode, je prépare très peu les épisodes, et je savais pas trop où il allait aller cet épisode, parce que moi, la gamification, c'est pas une tendance qui, je te l'ai dit d'ailleurs en démarrant, c'est pas une tendance qui me plaît tant que ça, en tout cas dans ma façon à moi de voilà, d'animer le podcast du marketing, etc. Et en fait, en discutant avec toi, je comprends l'intérêt qu'il y a derrière de déplacer ce lien entre la marque et son utilisateur, son client. Et je trouve que c'est très, très intéressant d'aller chercher d'autres façons que d'avoir le seul lien commercial, d'aller apporter d'autres choses aussi. Et à l'ère de l'IA, j'en ai pas reparlé dans mon mini résumé, mais à l'ère de l'IA, de rapporter du relationnel, de rapporter de l'humain, eh ben, ça va être une force et un élément, à mon avis, pilier de nos prochaines campagnes marketing et stratégies marketing au global. Merci infiniment, Pauline, d'être venue nous porter ce sujet de la gamification sur le podcast du marketing. Tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing. Bien. Où est-ce qu'on peut te suivre, en savoir plus sur toi, sur Conviews? Comment est-ce qu'on fait, dis-moi?
Bien, moi, je suis sur LinkedIn, hein, Pauline Consonetti. Vous pouvez me contacter. Je suis en lien direct avec tous les acteurs du marketing. Ça me plaît beaucoup d'échanger comme ce qu'on vient de faire avec toi, Estelle. C'est hyper inspirant, ça nourrit énormément de d'idées. Donc je suis très très friande de ça. Et puis Conviews sur conviews.com, on a tout ce qu'il faut pour vous expliquer un petit peu plus. Et puis je pense que c'est quand même une solution assez large, donc je vous invite plutôt à me contacter directement, ça sera plus simple pour en discuter.
Eh ben génial, je mettrai le lien de ton LinkedIn sur les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Pauline.
Merci.